petite chanson de Beyoncé et Miley Cyrus. C'est ainsi que se termine ce journal en français facile. À réécouter sur France.
Radio G 101.5 FM.
Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
Allez, promis, c'est fini les intros en mode bilan de santé, nouvelle semaine d'agitation locale angevine et tout le monde est en forme dans le studio. Mardi demain, nous sommes avec le théâtre de l'hôtel de ville de Saint-Barthélemy d'Anjou, partenaire de l'émission, et le dessinateur Raphaël. Mercredi, c'est la compagnie À Travers Champs qui va nous parler de son spectacle vivant. Et jeudi, ce sont Les Folies Angevines et Cours en Folie. Willy sera très certainement de la partie. Un autre qui est de la partie ce soir avec nous, notre cher Noodles. Bonsoir Noodles.
Bonsoir PB.
Ça va?
Oui, ça va. Petit problème de casque, mais ça va se régler.
Je t'entends pas.
Ah.
Si, je plaisante. Fini Buster Keaton du coup?
Ah oui, depuis le 2 mars, ça fait un mois maintenant que c'est
ouais,
terminé.
Fini les coups de pied dans la tête pour toi?
Oui, bah ça s'est terminé après le 20 janvier, heureusement voilà. D'ailleurs.
Il a une belle cicatrice sur la tête. Est-ce que tu aimes les chiens, toi, ou pas?
Ah, une petite phobie, mais je pense que ce soir, ça va peut-être me réconcilier
oui,
avec...
Oui, ça va te réconcilier, évidemment. Parce que ce soir, nous serons avec Oriane Blanchard, chargée de communication de l'ACGAO pour le sigle. Vous connaissez plutôt l'Association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest. Oui, c'est bon, ça commence à vous venir. Bushman, si je vous dis les chiens qui attendent souvent avec des maîtres ou des maîtresses sagement au passage piéton en ville, eh ben oui, c'est eux. L'occasion de découvrir ensemble qui sont ces chiens guides d'aveugles de l'Ouest et quelles sont leurs différentes actions. C'est Suzanne qui se chargera de l'interview. Mathéo, tout à l'heure, on sera avec Toc Toc, n'est-ce pas?
Exactement, bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir à tous.
Bonsoir
Mathéo. Toc Toc, c'est une entreprise de traiteurs pour des événements spéciaux. Donc voilà, on va en apprendre un petit peu plus sur cette fameuse entreprise qui propose du bio et des produits locaux.
Et un petit agenda culturel tout à l'heure. Bonsoir Tiffany, ça va?
Bonsoir, oui.
On change de créneau?
Oui, oui, ça me convient en plus, je pense.
Ok, bah on est là pour s'adapter à toi. Oui. Donc bah, bienvenue en ce lundi soir que tu ne connaissais pas. C'est à peu près comme les autres jours de l'émission. Rassure-toi, les topettes, c'est parti.
Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
Il avait le micro, et bah il va le reprendre et le garder pour nous présenter les actualités locales. Mathéo, on commence avec le nouveau directeur de l'administration pénitentiaire qui est angevin.
Il se nomme Sébastien Cowell, c'est à 46 ans qu'il accède à la plus haute fonction de sa vie, lui qui a passé des années dans les préfectures, en Vendée, dans le Finistère et dans l'Essonne en tant que directeur de cabinet d'abord, puis en tant que secrétaire général pour les préfectures de l'Aveyron et de la Guadeloupe. Né à Brissac, il a par la suite été diplômé de l'école nationale de l'administration pénitentiaire, abrévié ENAP. Il a connu de nombreuses expériences de ce type plus tard, jusqu'à devenir directeur de cette même école en avril 2022, poste qu'il occupait donc depuis... Enfin, jusqu'à aujourd'hui et sa prise de fonction.
Une menuiserie totalement détruite par les flammes à Noyon-la-Gravoyère.
Dans la nuit de samedi à dimanche, un feu s'est déclaré dans la commune déléguée de Segré-en-Anjou. Il emporte avec lui une menuiserie, son matériel informatique et ses trois camions, ainsi qu'un poids lourd du groupe Transport Rapide du Maine-et-Loire qui contenait des téléviseurs, des spas, de l'électroménager et du matériel de jardin dont il ne reste rien. Au petit matin, les habitants de la commune n'ont pu qu'observer des restes encore fumants du bâtiment, propriété d'un certain Éric Grosbois. Il a été prévenu cette nuit par des pompiers, eux-mêmes alertés par les voisins. Selon eux, le feu s'est élevé à 18 mètres de haut, les obligeant à sortir la grande échelle. Aucun blessé dans les environs, personne ne se trouvait sur les lieux au moment des faits et les voisins les plus proches ont été évacués. La piste criminelle n'est pas écartée, la gendarmerie scientifique se trouvait sur les lieux ce lundi.
Ce week-end, Mathéo, c'était la Angers Geek Fest.
Oui, c'était la 5e édition du festival de pop culture angevine. Cette année, le thème, c'était les années 90. Dans ce sens, beaucoup d'invités de marque ont investi les lieux. Jackie du club Dorothée en tête d'affiche. Au programme, tout ce qui était possible et imaginable autour de la pop culture réunis en 200 stands. Cette année, les visiteurs étaient au rendez-vous. Le Angers Geek Fest a réuni 18 000 personnes, soit 4 000 de plus que l'année précédente. Un succès qui a permis une annonce immédiate, celle d'une 6e édition. Rendez-vous les 6 et 7 avril 2025 avec pour thème les super vilains.
Demain, le temps, lui, sera vilain.
poursuite du mauvais temps en effet, mais avec un peu de répit, puisque demain matin c'est un grand soleil qui saluera votre début de journée, une journée qui se couvrira par la suite sous les coups de 13h. Des averses sont à prévoir en fin d'après-midi, les températures iront de 7 à 12 degrés. Côté trafic, n'oubliez pas que le tunnel en Gévrier sur la A11 est fermé tous les soirs dès aujourd'hui et ce jusqu'à jeudi, de 21h à 6h dans le sens Paris-Nantes et de 20h à 7h dans le sens Nantes-Paris. Des déviations ont été mises en place et visibles via des panneaux.
Oui, le temps sera meilleur, il sera pas vilain, il sera un peu moins vilain qu'aujourd'hui. Voilà. Encore un petit peu de poésie ce soir dans Topette qui accueille donc notre invité de ce soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Suzanne.
Bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir à tous.
Alors, tu n'es pas l'invité, tu es la personne qui va interviewer notre invité. Juste pour mettre un petit peu de contexte, tu es en service civique à la radio et toi, tu es plutôt sur Gélaref habituellement.
Tout à fait, l'émission jeunesse. Et là, c'est mon premier exercice d'interview en direct.
Voilà, et ben bravo, on va t'encourager. Tu es accompagné de Doriane, je crois.
Oui, tout à fait. Comme tu l'as dit, ce soir, on part à la découverte d'une association qui œuvre pour l'autonomie des personnes non-voyantes et malvoyantes. Une asso qui fêtera bientôt ses 50 ans et qui a tout plein de cordes à son arc. Il s'agit des chiens guides d'aveugles de l'Ouest. Et vous le verrez, ça se résume pas qu'à l'éducation des chiens, comme on pourrait le croire. Et Oriane Blanchard est avec nous aujourd'hui pour nous éclairer sur les actions de l'association. Bonjour Oriane.
Bonjour.
Donc toi, t'es chargée de communication au sein de l'association depuis 2022, si mes infos sont bonnes.
Exactement, c'est ça, depuis décembre 2022.
Ok. À titre personnel, je suis trop contente de te recevoir parce que c'est une asso qui me parle beaucoup. Et tu vas ce soir nous éclairer sur les actions de l'asso, comment est-ce qu'elle a vu le jour, quelles sont les étapes de l'éducation des chiens, les choses mises en place pour favoriser l'autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes. On va voir tout ça ensemble ce soir, mais déjà peut-être qu'on peut faire un petit point. Alors, dis-moi si t'as les infos ou pas, mais sur les handicaps concernés, à partir de quels critères on peut être considéré comme malvoyant
ou non voyant.
Ou non voyant, oui.
Alors, quand il y a une cécité totale, c'est-à-dire que là, les personnes handicapées avec qui ont une cécité totale, ils ne voient vraiment rien. Et après, on accompagne aussi les personnes malvoyantes, qui elles peuvent quand même voir quelques formes ou alors avoir un champ de vision extrêmement réduit. Okay. Il y a différentes maladies, différentes choses et on peut quand même avoir un chien guide d'aveugle même si on est malvoyant.
D'accord.
Pas déficient visuel total. Voilà.
OK. Et concernant l'association des chiens guides, elle a été créée en 1975. Si mes calculs sont bons, on n'est pas loin des 50 ans d'existence, c'est
oui,
bien ça ?
Oui, tout à fait.
Et plus récemment, elle s'est créée la Fondation Visio, mais ça on va en reparler après. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu l'historique de cette association, d'où est partie l'idée et comment a-t-elle évolué en 50 ans ? J'imagine qu'il y a eu un peu d'évolution.
Oui, alors l'association elle a été créée en 1975 par Yves Châtelain, qui est la personne qui a pour la première fois décidé de remettre des chiens guides d'aveugles dans notre région. Et donc ça a débuté dans une caravane au niveau de la Baumette, à côté de la SPA. Et petit à petit, ça a pris un peu plus d'ampleur. Il y a eu un espace un peu plus grand et de plus en plus de bénévoles, puis salariés. Et aujourd'hui, on est arrivé à presque 60 salariés.
Ah ouais. Et Yves Châtelain, il a commencé tout seul.
Il a éduqué tout seul les premiers chiens guides parce que en fait, il me semble qu'il avait un ami qui était déficient visuel ou aveugle et il voulait lui rendre son autonomie. Donc c'est comme ça qu'a débuté l'histoire de l'association, de notre association.
Et comme je le disais en introduction, vous ne faites pas que de l'éducation canine. Alors quels sont les différents services proposés par l'association ?
Alors on a 5 services différents au sein de l'association. Le premier, c'est le chien guide, c'est notre service le plus important. Mais c'est pas la seule chose qu'on fait pour rendre de l'autonomie aux personnes handicapées. On propose aussi une canne blanche électronique. Mmh. C'est quelque chose qu'on a développé nous-mêmes au sein de l'association, par le biais de la Fondation Visio. Donc la canne blanche électronique, c'est comme une canne blanche normale, mais on a rajouté un petit boîtier dessus qui va vibrer en fonction des obstacles qui vont être rencontrés. Ce petit boîtier, en fait, il y a un petit laser qui va identifier les obstacles à une distance plus ou moins proche. Et donc les personnes aveugles ou déficientes visuelles vont pouvoir se déplacer plus facilement grâce à cette canne blanche électronique. C'est le deuxième service. Le troisième service, c'est la locomotion. La locomotion, qu'est-ce que c'est? C'est aider les personnes déficientes visuelles ou aveugles dans leur trajet quotidien pour aller de chez eux à la boulangerie avec leur canne blanche. Pour pouvoir faire leur trajet quotidien, bien appréhender les trottoirs, les passages piétons, tout ça. Troisième service. Quatrième service, c'est l'informatique adaptée. C'est un service qui propose une aide aux personnes déficientes visuelles ou aveugles en leur proposant des cours d'informatique au moyen de logiciels spécifiques qui vont en fait lire tout ce qu'on voit sur l'écran pour qu'ils puissent surfer sur Internet, prendre des notes, envoyer un mail, consulter des infos, voilà. Et notre dernier service, c'est l'aide à la vie journalière, qu'on appelle aussi AVJ. Là, c'est vraiment aider la personne déficiente visuelle dans son quotidien, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se verse de l'eau chaude dans une tasse pour boire un thé quand on est aveugle et qu'on veut pas que ça déborde. Il y a des solutions qui sont possibles. C'est comment est-ce qu'on va nettoyer une table, par exemple, après avoir mangé. Comment on va ranger ses boîtes de conserve pour pas, si on a décidé de manger des petits pois et pas des haricots verts, voilà. Et puis, on apprend aussi la couture aux personnes déficientes visuelles ou aveugles. Il y a des choses qui sont mises en place. Et on a d'ailleurs une maître de chien guide qui a découvert la couture et qui en fait beaucoup et qui nous fait des colliers pour chiens et des laisses pour chiens.
Sympa. Voilà. Donc, il y a un fort accompagnement des personnes déficientes visuelles, en fait.
Oui, tout à fait.
C'est une grande, grande partie du travail. J'avais noté, depuis la création de l'asso, c'est 815 chiens guides remis depuis le début et 250 utilisateurs de cannes blanches. C'est bien ça?
Oui, c'est ça. Et ça a même un petit peu augmenté. Aujourd'hui, on a édité les chiffres récemment pour 2024. On est à plus de 830 chiens guides et on a remis presque 500 cannes blanches électroniques. Okay. Voilà, depuis 2006.
On va continuer notre échange et parler éducation des chiens et de la vie quotidienne des personnes aveugles ou malvoyantes. Mais juste avant, on va faire une pause en musique, n'est-ce pas Pierre-Benoît?
Ah bah si vous le voulez bien, oui, on peut partir avec Ton élégance de Gal sur le 101.5 FM et puis on revient avec toi Suzanne et toi Oriane et puis le reste de l'équipe, Julien, Mathéo et Tiffany qui sont très attentifs et attentifs depuis tout à l'heure. Ton élégance, Gal, 101.5 FM.
Blotti contre toi, la chaleur m'enrobe. Blotti dans tes bras, tu attends que je m'endorme. Ta main dans mes cheveux, c'est tout mon corps qui frissonne. Fais ce que tu veux, c'est mon cœur que tu dérobes. Ton élégance dérobe la nuit. Dors mon ange, tu m'as séduit. Le son de ta voix apaise les substances. Elle me dit tout bas, tu me rattrapes quand je décolle. Ta peau contre ma peau fais danser tous mes poils. Perdu dans le noir, je te suis ma belle étoile. Ton élégance dérobe mes nuits. Dors mon ange, tu m'as séduit. Moi tes pulsions, tes attentes, écoute-moi, parle-moi des mots doux, des souvenirs, des sourires, des photos, des coups de gueule dans l'attente de l'amour. Comme toujours, je t'emmène, tu me portes. Rassure-moi, relâche-moi, je t'embrasse, tu te casses, tu reviens faire l'amour. Le matin, les copains, les amis, les soirées, la boisson, la danse, le vomi. T'es bourré, mais qu'est-ce que tu sens bon. Ton élégance. Tu m'as séduit.
Ton élégance de Hugal sur le 101.5 FM de Radio G.
18h10, 19h, Topette sur Radio G.
Les gars, ça va? On écoute un petit peu là, Mathéo, Julien, je sais pas ce qui se passe. Là, ils se partagent des notes sur leur carnet intime. Ils s'écrivent des petits mots dans les agendas comme on faisait à une certaine époque au collège.
Pas du tout. On disait à quel point l'émission était vraiment réussie ce soir grâce à Suzanne en particulier.
Voilà, bah, mets-lui la pression. Elle est pas encore totalement terminée, là, l'émission. Tout à l'heure, on sera avec Junior et sa story. Mais effectivement, avant tout ça, on retourne avec Suzanne et Oriane pour parler des chiens guides d'aveugles de l'Ouest. Avant tout ça, peut-être qu'il y avait des questions. Julien, tout à l'heure, tu nous parlais de plutôt une phobie des chiens. Je sais pas si tu connais les chiens guides d'aveugles.
Je les croise dans la rue. De là à les connaître, ce serait peu dire. Mais, non, moi, je suis impressionné par le nombre d'actions qui sont mises en place parce que, quand tu vois une asso qui est appelée les chiens guides d'aveugles de l'Ouest, on se dit que c'est surtout porté sur les chiens. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a tellement de choses qui sont faites pour les personnes déficientes visuelles. C'est quelque chose auquel je ne m'y attendais pas. Et je me demandais si ça avait toujours été le cas ou si ça a évolué avec le temps, ces
non,
actions-là.
Ça a vraiment évolué avec le temps. À la base, on faisait vraiment que les chiens guides. Et au fur et à mesure, avec la création de la Fondation Visio, justement, on a fait des cannes blanches électroniques. Et puis après, c'est notre école qui est assez importante, qui a ces 5 services-là. Mais toutes les écoles de chiens guides d'aveugles ne proposent pas tous ces services.
Oriane.
Nous, on est un peu exceptionnel en fait.
Oriane, chargée de communication, je le rappelle, des chiens guides d'aveugles. Tiffany, et toi, est-ce que tu connaissais les chiens guides d'aveugles? Est-ce que tu...
Non,
t'es plus de Saint-Nazaire, toi, en même temps.
Donc, oui, de très loin.
Non, mais c'est vrai.
Non, mais on remet aussi des chiens guides à Saint-Nazaire. Hein.
Ah.
Notre association, ça, je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure. Elle couvre vraiment tout l'ouest de la France, de la Bretagne à la Charente.
Okay.
Donc la Loire-Atlantique est comprise dans ce territoire.
Voilà. De l'Ouest, hein, c'est
donc
presque...
Donc on n'est pas si loin que ça finalement.
Voilà, c'est indiqué dans le nom. Suzanne, il nous restait encore à éclaircir certains points, notamment avec Visio et puis aussi comment marchent les familles d'accueil.
Tout à fait. Oriane, tu nous as un petit peu parlé de la Fondation Visio, mais c'est quand même une grosse part de l'association. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment est-ce qu'elle a vu le jour et pourquoi œuvre-t-elle?
Oui, donc la Fondation Visio, en fait, c'est notre association qui a décidé au bout d'un moment de financer des recherches scientifiques autour de la malvoyance. Pour cela, on a décidé de créer une fondation qui s'appelle la Fondation Visio et qui fait principalement des recherches scientifiques sur des maladies de déficience visuelle et qui développe aussi des outils pour améliorer l'autonomie des personnes déficientes visuelles, comme la canne blanche électronique. Mais ils ont développé d'autres outils. Par exemple, on a quelque chose qui s'appelle le mini-tact. C'est la même chose que ce qu'on met sur une canne blanche pour la canne blanche électronique, mais c'est un petit boîtier noir, en fait, qu'on garde dans la main et qui vibre quand on rencontre des obstacles.
Sans la canne.
Sans la canne. Mmh. Quand on est chez soi, par exemple, ou à d'autres moments. Et ils ont aussi développé un outil pour apprendre à se déplacer avec un chien guide. Ça s'appelle le dog sim. C'est une sorte de canne en fait recourbée que l'instructeur en locomotion va tenir un bout de la canne, la personne déficiente visuelle l'autre bout, et ça va leur permettre de se déplacer. Et c'est un petit peu comme du coup l'instructeur en locomotion a le rôle du chien et peut aussi protéger la personne déficiente visuelle ou aveugle qui apprend. Voilà. Et la Fondation Visio, en plus de ça, a tout un volet sur l'accessibilité culturelle. Donc, ils participent notamment au financement d'audiodescription de films. Par exemple, pour le festival Premier Plan, chaque année, ils ont un jury à Premier Plan qui remet un prix d'un film audio décrit. Il y a aussi des sensibilisations à l'audiodescription, justement. C'est d'ailleurs très chouette, si vous avez l'occasion d'y aller, chaque année, ils font une séance audio décrite qui est vraiment très 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 intéressante
pendant le festival.
Pendant le festival. Et puis ils ont fait d'autres choses, ils ont fait des livres audio décrits pour enfants notamment qui avaient été lus par Sandrine Kiberlin. Donc ça c'est chouette, okay. Il y a eu des petits partenariats. Et puis une dernière petite chose, la dernière chose qu'ils ont faite, les deux dernières choses qu'ils ont faites, c'est que ils ont audio décrit une pièce de théâtre au Festival d'Anjou aussi. Mmh. Et puis le dernier, c'était le concert de soprano à Paris. Il y avait quelqu'un qui décrivait tous les décors, tout ce qui se passait sur scène, les effets, les lumières, etc. Et voilà, en gros, ce que fait la Fondation Visio.
Tout plein d'actions.
Oui.
Et c'est depuis 2011, je crois, date de création.
Oui, c'est ça.
C'est ça, je suis bien informée. On va maintenant parler chiens, éducation des chiens. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont déjà les étapes de vie d'un chien guide de sa naissance, parce qu'ils naissent à l'association des chiens guides à Bushmen et ils font toute leur vie avec vous en fait. Donc quelles sont les étapes de leur vie?
Oui, alors ben nous en fait à l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest, dans notre école, on a la particularité d'avoir l'un des trois élevages de chiens guides en France. Donc on a une partie des futurs chiens guides d'aveugles qui naissent chez nous. C'est une sorte de maternité en fait. Donc les chiots naissent chez nous, ils vont rester chez nous avec leur mère et leurs frères et sœurs de 0 à 2 mois. Ils sont, c'est vraiment une petite maternité, une petite crèche, c'est très mignon, on en prend bien soin. Ensuite, à partir de 2 mois, ils sont sevrés, donc ils sont placés dans une famille d'accueil bénévole. Nous recrutons donc des familles d'accueil qui acceptent d'avoir un petit chiot de 2 mois à plein temps chez eux. Donc là, dans la famille d'accueil, ils vont passer de leurs 2 mois à leur 1 an, à plein temps, 24 heures sur 24. Donc c'est un chiot de 2 mois, mais c'est un peu comme un bébé. Il faut pouvoir le sortir très régulièrement. Au début, il est pas forcément propre. Il faut l'habituer à découvrir un peu le monde, qu'il ait des bonnes habitudes de bon chien de compagnie. C'est ce qu'on demande à nos familles d'accueil. Donc voilà, c'est jusqu'à 1 an. Et ensuite, à partir de 1 an, il rentre à l'école, dans notre école de chien guide. Où là il va passer la semaine en internat dans notre école du lundi au vendredi et le week-end dans sa famille d'accueil. Donc c'est vraiment comme une école en internat.
Donc le lien se brise pas trop difficilement avec
la famille d'accueil. Et puis c'est même peut-être plus facile pour les familles de s'en détacher
petit à petit.
Et donc à la fin de cette deuxième année, si tout se passe bien, il va passer le certificat d'aptitude au guidage qui est l'équivalent du bac pour nous. Et s'il le réussit, là, il va pouvoir être remis à une personne déficiente visuelle ou aveugle. Ça, c'est pas avant 2 ans.
Et s'il le réussit pas?
Si. Généralement, quand on les présente, ils réussissent forcément. Si jamais ils ratent une petite épreuve, ils la repassent et c'est bon. Si jamais, par contre, au cours de l'éducation, on se rend compte qu'ils sont pas faits pour être chien guide, ou qu'il y a une maladie qui se développe, ou que l'éducation, ça leur convient pas, en fait, ce métier-là, comme c'est quand même des chiens de travail. Dans ces cas-là, on essaie de les réorienter. C'est-à-dire qu'on va les proposer à d'autres associations ou sur d'autres missions qu'on développe aussi. Ça me permet de parler un petit peu des chiens d'assistance et de médiation, qui est encore un autre service que l'on propose. Donc les chiens d'assistance, ce sont les chiens qui accompagnent les enfants handicapés, donc atteints de troubles autistiques. Donc ces chiens-là rassurent les enfants, ils sont là tout le temps avec eux. Voilà, donc ça c'est les chiens d'assistance et les chiens de médiation. Par contre, c'est les chiens qui interviennent dans les maisons de retraite ou les hôpitaux. Donc on essaie de réorienter nos chiens guides qui n'arrivent pas à être chiens guides, ou si ça leur convient pas, vers ces rôles-là.
Ils auront toujours une petite place, un petit rôle à avoir en fait.
Oui, voilà, c'est ça.
Ariane, tu restes avec nous, on va continuer notre échange et évoquer un petit peu les aménagements et le quotidien des personnes aveugles et malvoyantes. Mais juste avant, on va parler sport, je crois, Pierre-Benoît.
Pas tout à fait, Suzanne, le programme a un peu changé. Paul, on va le retrouver mercredi prochain, on va plutôt partir avec Junior et sa story. Puis effectivement, on reviendra tout à l'heure avec toi, Ariane, et toi, Suzanne.
J'espère que vous allez bien, c'est Julie du compte Insta Junior.vlog. Bienvenue dans les coulisses de ma vie étudiante, musique, glisse, vidéo, Angers et plein d'autres choses.
La mer est un monde qui m'a toujours attirée. Quand j'étais au collège, ma seule préoccupation était de savoir s'il y allait avoir des vagues à ma sortie pour aller surfer. Dès que je retrouve l'océan, c'est comme si tous mes problèmes avaient disparu. C'est presque une drogue, comme un appel. Cette année, j'ai pu aller à la rencontre de ce monde merveilleux. Je suis partie en voyage dans l'océan Indien et avant de partir, j'ai passé mon niveau 1 de plongée sur Angers. Oui, oui, on peut faire de la plongée dans notre ville. Bon, évidemment, pas dans la mer, ni dans la Maine, mais dans une ancienne carrière d'ardoise située à Trélazé. C'est un endroit pour tous les niveaux. Plusieurs plateformes sont posées à différentes profondeurs. Il y a aussi un bateau à moteur, un voilier, et même un bus. Franchement, quand j'y suis allée, je me croyais comme dans un film. C'était fou. C'est un bassin d'eau douce. L'eau est assez fraîche. Il y a même la seule variété de méduses d'eau douce. Pas de panique, elles piquent pas. Elles sont transparentes et toutes petites. C'est trop mignon. Les carpes, elles, sont tellement habituées aux plongeurs qu'elles nous suivent tout au long de notre balade. C'est vraiment tout un monde. Le niveau 1, il te permet de plonger, accompagné, jusqu'à 20 mètres. Perso, je l'ai passé en moins d'une semaine, juste avant mon départ. C'était très intense. Il a fallu enchaîner les plongées. J'ai appris à utiliser mon matériel pour être autonome, savoir communiquer sous l'eau avec différents signes. D'ailleurs, tu sais, si un jour tu plonges et que tu fais un pouce en l'air pour dire que tout va bien, le plongeur en face de toi risque vraiment de paniquer, car pour eux, ce signe veut dire qu'il faut que tu remontes. Donc pas ouf quoi, pas ouf du tout. Bref, j'ai aussi appris à vider mon masque sous l'eau, oui c'est possible, et à utiliser mon détendeur d'urgence, le tuyau qui te sert à respirer, et à le passer à un partenaire en cas de besoin. Pour finir, j'ai passé ce premier niveau avec l'entreprise La Bulle à Angers, et franchement c'était super. J'ai plongé pour la première fois en mer dans une épave cet hiver, j'en ai pleuré tellement c'était incroyable. Je vous l'ai dit, hein, l'océan et moi, c'est une grande histoire d'amour. Je dois déjà vous laisser, ça passe si vite le temps avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous voulez plonger avec moi, tout mon voyage est disponible sur YouTube, sur le compte junior.vlog. En attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas, vous êtes super. Je vous fais des bisous. Tchuss!
Et tout à l'heure, on sera aussi en agenda culturel avec Tiffany, qui va nous faire un petit peu le point sur les actualités culturelles méno-ligériennes, comme dirait Mathéo. Mathéo, qu'on retrouve justement, puisque tu vas nous emmener du côté de Hongrie, je crois, maintenant, par téléphone.
Oui, Pierre-Benoît, ce soir, nous sommes avec Caroline Brard. Bonsoir, Caroline.
Bonsoir.
Alors, vous êtes fondatrice et responsable de Toc Toc Traiteur, mariage, fête de famille, anniversaire. La liste des événements pour lesquels vous cuisinez est encore longue, tant la demande de consommation de produits locaux et éco-responsables afflue. Face à cette forte sollicitation, vous êtes à la recherche d'une ou d'un cuisinier. On y reviendra tout à l'heure. Alors, vous n'êtes pas toute seule dans cette aventure, puisque vous êtes accompagnée de votre conjoint, Adrien. Mais c'est vous qui en êtes à l'origine, puisqu'en 2016, vous avez créé Toc Toc, une auto-entreprise de prestations culinaires. Racontez-nous d'où vous est venue cette envie de vous lancer dans cette affaire qui a l'air de rouler.
Eh bien, en fait, j'étais salariée dans un restaurant et je sentais que les valeurs n'étaient pas forcément en cohérence avec les miennes, enfin les valeurs du restaurant. On a commencé à faire notre petit jardin dans notre maison quand on habitait en Loire-Atlantique. Et l'idée, c'était d'essayer de produire tout ce qui est légumes de saison et puis de pouvoir les utiliser. Donc, on a commencé à bosser avec des jeunes maraîchers qui se lançaient et qui sont devenus aussi des amis. Et on se posait la question vraiment de sourcer beaucoup plus nos produits parce qu'on est quand même un territoire assez riche en production végétale, animale et toutes les autres. Et on avait envie de plus, de vraiment montrer que c'est possible de faire autrement. Et donc, de fil en aiguille, on a repris des études agricoles tous les deux. On a acheté une ferme qu'on a rénovée. On a créé un labo de cuisine directement sur la ferme dans lequel aujourd'hui, on est traiteur événementiel. Et on cuisine presque à la base de 90% de produits issus du territoire du Maine-et-Loire et des régions un petit peu avoisinantes. On travaille en direct avec les fermes et on réalise des prestations de A à Z, de l'entrée au dessert, que ce soit la partie salée ou sucrée, tout est fait 100% maison. La cuisine, c'est vraiment ce qui me porte aujourd'hui. Je voulais montrer que c'était possible de faire autrement. Et en fait, on est atterri dans le Maine-et-Loire parce qu'il y avait toutes les conditions qui étaient favorables pour lancer ce projet. L'idée, c'est d'avoir une partie de la production qui est faite sur la ferme avec des produits à forte valeur ajoutée qu'on trouve pas forcément chez nos collègues maraîchers. On voit vraiment la différence entre la grande distrie et un produit qui vient directement du terroir et qui a poussé avec la saison et c'est vraiment chouette.
Et justement, toutes ces propositions locales, biologiques, est-ce qu'elles sont liées à des convictions personnelles avant tout ?
Ah oui, bien sûr, c'est vraiment pour ça aussi qu'on a voulu faire différemment, parce que dans notre quotidien, on se posait la question sur tout ce qui était consommation, qualité de la nourriture, enfin la santé passe d'abord par l'assiette, donc maintenant on a deux enfants et on avait vraiment envie que ils puissent grandir sainement avec une nourriture de qualité. On se rend pas compte, mais les produits de saison, ils ont vraiment un goût différent d'une tomate qu'on peut acheter au mois de décembre, et ça fait vraiment la différence. Et aussi tout l'engagement écologique aussi, la démarche d'économie circulaire, de faire travailler les gens qui sont autour de chez nous, qui puissent se rémunérer correctement. et fait en sorte que on ait un territoire riche qui fonctionne et qui propose des produits vraiment de grande qualité.
Moi, je me suis dit que c'était plutôt une chance d'avoir ce genre de proposition à l'échelle locale. Et du coup, je me suis rendu sur votre compte Instagram et j'ai sélectionné une petite story au hasard. Alors, je suis tombé sur un camembert fermier farci aux fruits secs et séchés accompagné d'une crème mascarpone au miel. Ça, c'est pour donner envie à tout le monde. Expliquez-nous d'où viennent justement les produits de ce plat, de cette entrée. Et puis, de manière générale, où est-ce que vous piochez tous les produits, même si vous nous en avez un petit peu parlé tout à l'heure?
Et bien en fait, le camembert, c'est un camembert de la ferme des Petits Briers, qui est une ferme en agriculture biologique à Saint-Michel et Chanvaux. La crème, c'est de la crème fermière qui est de la ferme de Brindelet à Saint-Sigismond. Le miel, miel et gourmandise, qui est une ferme à La Poëze. Les noisettes qui viennent d'Anjou-Noisettes et qui sont produites à Baugé-en-Anjou ou Beaufort, j'ai un doute. Les graines de tournesol qui étaient à l'intérieur sont produites par Julien d'Anjou à Soudan dans le 44. Les graines de courge sont produites par la safranerie qui est un petit peu plus haut que chez nous. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir la quasi-totalité des produits qui viennent de là. Quand il n'y a pas un produit, j'essaie quand même de me limiter sur l'achat des matières qui viennent hors circuit court. Mais voilà, il y a des fois, par exemple, le mascarpone, les producteurs n'en font pas encore. Il n'y a pas forcément peut-être la demande au niveau de la quantité. Donc là, j'achète dans le circuit traditionnel.
Vous avez l'air d'avoir un énorme réseau, justement. C'est quoi les difficultés quand on le crée et puis derrière quand on essaie de le mettre en place?
En fait, ça a été un gros travail en amont, en fait, de recherche de producteurs. Parce que bien souvent, c'est vrai qu'on peut pas être sur tous les fronts et la communication, c'est peut-être un peu ce qui manque au niveau des producteurs. Ils ont déjà tellement de boulot à faire sur le terrain qu'ils peuvent pas être partout. Et donc, ça a été vraiment d'essayer de répertorier autour de chez nous tous les producteurs qu'on avait. Et aujourd'hui, j'ai des producteurs qui me livrent, j'ai des producteurs où on se rejoint sur un parking d'église, j'ai des producteurs où il y a un dépôt dans un magasin dans la commune d'à côté. Voilà, l'idée c'était vraiment que ce soit fluide. Donc ça a été un peu compliqué au début parce qu'il fallait vraiment réussir à tout gérer. Mais aujourd'hui ça roule pas mal et puis on est toujours à la recherche encore de nouvelles pépites. Et l'idée c'est vraiment que ce soit pratique pour tout le monde aussi, quoi.
Et puis le tout en 3 ans, donc j'imagine que vous êtes fier de ça. En tout cas, tous ces bons produits sont ensuite parfaits dans votre laboratoire dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites là-bas?
Eh bien là-bas, en fait, on fait de la vraie cuisine. On achète tous nos produits bruts, donc en général, mes semaines, elles se découpent à peu près toujours de la même façon. Le lundi ou le mardi, on va récupérer des commandes, donc comme je disais, soit de la livraison, soit aller dans des points relais. Donc on prépare tous nos légumes, on les nettoie, on les lave, on les stocke. Les viandes sont acheminées aussi. On commence par faire toutes les préparations sèches, notamment la pâtisserie au début de la semaine, où je viens préparer mes coques de macarons, par exemple, faire mes biscuits, mes génois, ce genre de choses. Et puis plus la semaine avance, en fait, plus on va venir préparer les produits en fonction de leur durabilité et du côté fragile qu'ils peuvent avoir. Et donc les derniers jours, vraiment, ce sont sur du détail, où on vient finir d'assembler des préparations. On est sur un gros travail de semaine de petites tâches. Et la concrétisation, c'est vraiment le samedi, le jour de la prestation, où là, on vient tout assembler sur place, on peaufine les détails, on vient réchauffer, on vient finir de préparer.
Alors, comme je l'ai dit en préambule, vous recherchez un cuisinier pour investir ce laboratoire. C'est un poste nouveau ou c'est une demande que vous faites chaque année?
Pour l'instant, aujourd'hui, on n'a pas forcément la capacité financière et en termes de temps de travail à embaucher quelqu'un en CDI. Tous les ans, on est à la recherche d'un cuisinier ou d'une cuisinière qui viendra renforcer notre équipe et être en duo avec moi au labo pour faire toutes les préparations, pour vraiment cuisiner des bons produits, de la cuisine, de la nourriture de qualité. Et l'idée, c'était aussi d'avoir un temps de travail qui soit cohérent en fait avec une vie sociale, parce que c'est vrai qu'en restauration, c'est pas ce qu'on a le plus. Et aujourd'hui, on cherche quelqu'un, en fait, donc en CDD, qui débuterait à la fin du mois d'avril et qui courrait potentiellement cette année jusqu'à fin décembre, parce qu'on a quand même des mariages qui se bouclent jusqu'à toute fin décembre. Nous, on est ouvert justement à de la reconversion, à avoir envie de retrouver le goût de bien cuisiner des produits frais et de pas faire de l'assemblage uniquement et tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner quelqu'un qui pourra éventuellement peut-être aussi s'engager sur le long terme avec nous. Vous parliez tout à l'heure de polyvalence, mais en fait, c'est clairement ça. Chez Toc Toc, on est un peu au four et au moulin. On a des récoltes à faire. Tous les ans, on récolte du raisin. Septembre-octobre, on en fait de la confiture, donc il y a un petit peu de transformation. On aura sûrement aussi des fleurs à couper, à sécher, des aromatiques à préparer pour faire des tisanes. Donc c'est vraiment un poste qui peut aussi être amené à pas se cantonner à la cuisine.
Comment on fait pour vous contacter si le poste nous intéresse ?
Eh ben, tout simplement, on m'appelle ou on m'envoie un mail. Mais c'est vrai que j'aime bien les coups de fil parce que le côté humain, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur. Et on veut vraiment trouver une personne qui a le feeling avec nous, qui se sente bien à l'aise dans ses baskets et qui est la banane, en fait. Parce que c'est vraiment aussi ce qu'on vend, c'est des prestations avec le sourire, le dynamisme, l'envie d'être là. Donc il faut vraiment qu'on trouve cette petite qui est autant le smile que nous pendant les prestas et même la semaine au labo.
En tout cas, si le poste vous intéresse, n'hésitez pas, contactez Toc Toc Traiteur. Caroline, j'espère qu'une réponse arrivera au plus vite pour vous permettre de passer des nuits plus sereines. Et on vous souhaite bonne chance pour l'été qui arrive. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, à bientôt.
18h10, 19h, c'est Topette. Sur Radio G.
Sacré Mathéo. Allez, on reste du côté de l'Anjou Bleu. On va remonter un petit peu plus haut du côté de Poncé et partir en balade avec toi, Camille.
Envie de partir en vadrouille ? Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons ensemble découvrir le château médiéval de Poncé. Ce château, édifié au XIIIe siècle, a subi quelques retouches au XIVe et XVe siècles. Notre visite a été réservée. Nous avons rendez-vous devant l'entrée du château à 10h30. Céline nous rejoint. Elle sera notre guide lors de cette prochaine heure. Situé au bout du Maine-et-Loire, il fait face à son meilleur ennemi, le château de Châteaubriant. Sur les marches de Bretagne, il fut en première ligne lors des batailles entre le royaume de Bretagne et le royaume de France. Surplombant la Verzée, les vestiges de l'édifice se dressent devant nous. La guide nous ouvre alors le portail et nous entrons dans la haute cour. On nous fait observer ces hauts murs qui nous protègent. On compte aussi 6 tours et chacune a son petit nom. Saint-Antoine, la Dame Blanche, criminelle. Entrons dans la tour Saint-Antoine. C'est haut et impressionnant. Elle mesure environ 30 mètres. La guide nous explique que des planchers en bois peu solides permettaient 4 niveaux. Nous continuons notre visite dans la tour heptagonale, avant de faire un arrêt à l'ancien emplacement du logis seigneurial. Descendons maintenant dans une pièce froide et sombre. Des chauves-souris tournent autour de nous. Nous voilà dans la glacière, la version médiévale du frigo. On pourrait en ranger des yaourts dans 80 mètres carrés de frigidaire. Nous ressortons ensuite pour finir l'exploration à la poterne. Cette porte de service permet d'accéder aux douves. Utile pour décharger des marchandises, elle a ensuite été murée pour la construction du moineau. Alors, je t'arrête tout de suite, le moineau, ce n'est pas un petit oiseau mignon, mais la version médiévale du bunker. La visite se termine, nous remontons les douves pleins d'informations. Pas encore rassasié ? Tu peux partir à la visite de Poincé, petite cité de caractère. Tu pourras y découvrir les murs d'enceinte, les anciennes maisons et autres édifices. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous !
Et si l'arrivée du printemps vous donne des idées de sortie que vous ne savez pas où aller en Anjou ou même en Pays de la Loire, vous allez faire un petit tour dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio, rubrique L'Anjou avec Camille.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Avec Pierre Benoît et Suzanne même, puisque Suzanne, on est avec toi ce soir. C'est toi qui mijote notre invité pour rester un petit peu dans le thème culinaire tout à l'heure avec Toc Toc. Et t'es avec Oriane et on parle du coup des chiens guides d'aveugles. On évoquait tout à l'heure les familles d'accueil.
Ouais, exactement. Et justement, Oriane, je voulais te demander, tu le disais, les familles d'accueil ont un rôle super important en fait dans le bon déroulement de l'éducation du chien. Mais alors, si je veux être famille d'accueil, comment je procède?
Alors c'est très simple, pour être famille d'accueil, il suffit de nous écrire via notre site internet ou nous appeler et de remplir un petit formulaire. Et il faut quand même répondre à certains critères quand même. Il faut être, déjà faut aimer les chiens, faut aimer les animaux, faut avoir un petit peu de temps parce que il y a des rendez-vous qui peuvent être prévus à l'école, etc. Mais le plus important, c'est d'avoir un véhicule, d'habiter à moins d'une heure d'Angers, Nantes ou Pont-Scorff à Lorient, parce que je l'ai pas dit non plus, mais on a deux écoles, on a une école à Bushmen et une école à Pont-Scorff, et on cherche des familles d'accueil sur les deux lieux. Et on a aussi un bureau à Nantes, donc on a aussi des familles d'accueil à Nantes.
D'accord.
Voilà, donc il faut...
Ah non, c'est juste, j'allais dire, il faut avoir le cœur bien accroché aussi, parce qu'une fois qu'on crée le lien avec le toutou, il n'est pas à nous, en fait.
Oui, c'est vrai, oui. Il n'est pas à nous, le chien, le futur chien guide d'aveugle reste toujours, même le chien guide d'aveugle reste toujours la propriété de l'association. On s'assure que sa vie de chien guide se passe bien. Et à la fin de son cursus, quand il est remis à une personne déficiente visuelle, effectivement, la famille d'accueil doit s'en séparer et généralement, elle en prend un autre pour continuer cette bonne action.
Noodle, c'est une question.
Oui, est-ce que la famille d'accueil a le droit quand même de voir le chien guide d'aveugle après l'avoir quitté, ou est-ce que c'est totalement interdit ?
Ça dépend. Ça dépend vraiment. En fait, ce qui se passe au moment de la remise, c'est qu'on fait un pot de remise où là, il y a la famille d'accueil qui a accueilli le chien pendant 2 ans, l'éducateur qui a formé le chien et la personne déficiente visuelle qui va être accompagnée par ce chien pendant toute sa vie. Et à ce moment-là, ils peuvent, s'ils le souhaitent, échanger leur contact, leur numéro pour garder contact. Mais c'est pas toujours le cas. Pour certaines familles, c'est plus simple de pas forcément garder contact ou bien d'attendre un peu.
Parce qu'on aurait pu penser aussi qu'il pouvait y avoir une influence pour le chien de rester en contact aussi avec la famille d'accueil par rapport à la personne déficiente visuelle. C'était aussi dans ce sens-là. Mais non, pas forcément.
Non, pas forcément, parce qu'en fait, quand on fait une remise, il y a un lien très fort qui se crée entre le chien guide et la personne déficiente visuelle, puisqu'en fait, pendant 2 semaines, ils vont vraiment vivre ensemble 24 heures sur 24. On les accueille la première semaine dans notre école. Là, vraiment, il crée un lien fort, il dort dans la même chambre, alors qu'un futur chien guide dans sa famille d'accueil, lui, il n'a pas accès à tous ces espaces-là, il n'a pas accès à la chambre, il a son espace de chien, voilà, alors qu'un futur chien guide aveugle, le lien est beaucoup plus fort, en tout cas. Voilà.
Donc, si je veux être famille d'accueil, les critères, c'est être véhiculé, aimer les chiens,
et habiter à moins d'une heure d'une de nos écoles, pardon. Et juste, je voudrais quand même rajouter qu'on peut être famille d'accueil en travaillant. D'accord. Il faut juste avoir un petit peu de temps, peut-être pouvoir adapter son agenda ou si on fait du télétravail, etc., pour se déplacer pour quelques rendez-vous et pouvoir amener le chien au travail.
Il y a peut-être des contrôles directement à domicile pour voir si tout se passe bien, si les chiens sont bien traités. Peut-être que c'est une question qui se pose.
Oui, ça on fait toujours attention à ça. Donc quand on devient, enfin pour devenir famille d'accueil, une fois qu'on a rempli le formulaire, après on va vous appeler pour être sûr que tout puisse bien fonctionner en tant que famille d'accueil. Et après on a l'un de nos collègues qui va venir chez vous pour voir si l'espace si c'est possible en tout cas dans votre quotidien. Et ensuite, une fois qu'on vous a remis le chien, là on est en contact constant pour assurer le suivi du chien. Il y a des conseils des éducateurs toutes les semaines, c'est très très régulier, au moins la première année pour voir l'évolution du chien, des séances de travail, etc. Et puis la deuxième année, là il y a encore quelques rendez-vous, mais comme le chien n'est là que le week-end, ça va un peu mieux.
En tout cas, on n'est pas laissé à l'abandon avec le chien. Il y a un bon suivi. Oui, vous êtes toujours à la recherche de familles d'accueil tout le temps.
On cherche beaucoup de familles d'accueil, oui. Il ne faut pas hésiter à postuler, à venir poser des questions, à venir à notre journée porte ouverte qui aura lieu le 29 septembre prochain. Et puis, voilà, à venir à nos événements. D'ailleurs, on va participer à la Foire d'Angers dans 2 semaines. D'accord. On aura un stand. Nos éducateurs et nos familles d'accueil seront là. Donc, il ne faut pas hésiter à venir nous voir et à poser des questions.
Et si vous n'avez pas le temps de noter toutes les dates et les infos pratiques, on va les redonner dans quelques instants, si tu veux bien, Oriane. Juste avant, on va faire, tout à l'heure, on évoquait en antenne ton passé culturel, au Festival d'Anjou, et ben voilà, qui devrait t'intéresser avec toutes les dates à venir d'un point de vue culturel. C'est l'agenda culturel avec toi, Tiffany.
Topette, l'agenda culturel.
Bonsoir Tiff.
Bonsoir. Alors aujourd'hui c'est le retour de l'agenda culturel et je suis très contente de vous retrouver pour faire un point sur les prochaines dates à ne pas manquer dans le coin. Et donc pour ce qui concerne des prochaines, cette semaine c'est déjà la fin du festival Spectacurieux. Et oui, ce jeudi annonce la clôture d'un programme riche et coloré. avec la nuit étudiante. Olympe se bouge, c'est à 20h au musée des Beaux-Arts que tout va se jouer. Et ne manquez surtout pas les derniers rendez-vous du festival. Et justement, ce soir à 19h, juste après l'émission, c'est au Angers Comedy Club qu'il faut passer la soirée. Je précise que le village culturel qui devait avoir lieu aujourd'hui et demain est annulé à cause des intempéries annoncées. Mercredi, c'est un moment théâtral que vous pourrez partager avec les étudiants de Polytech Angers. La maison de quartier de Saint-Aubin accueille À la recherche du magot perdu. Pour finir le festival en beauté, la BU Saint-Serge inaugurera Mon corps fait politique. C'est aussi bientôt la fin d'un autre festival, le Printemps musical à Tiercé. Il a commencé depuis presque un mois et c'est le 26 avril qu'il prendra fin. Et il reste encore deux dates pour venir en profiter. Le 12 avril, donc vendredi si mes calculs sont bons, c'est la chanteuse et guitariste Jazia Satour qui prendra place sur la scène du Pax pour un moment musical. Et pour clôturer la 17e édition, toujours au Pax, vous retrouverez 5 musiciens du groupe La Route des Airs. Et on termine cet agenda par une exposition. Elle a été présentée pendant le mois de l'égalité, portée par la ville d'Angers. C'est au nom des femmes, et je ne vous parle pas du film de Sean Anish, bien que je vous le conseille. Ici, c'est bien une exposition, et ce sont les femmes des sciences qui parlent. Il s'agit donc de 5 portraits de femmes scientifiques qui vous seront présentés. Elles ont contribué aux avancées de la science, et aujourd'hui, elles sont encore méconnues du grand public. Donc, Au nom des femmes en sciences est toujours exposé à la bibliothèque de Belbey jusqu'au 20 avril prochain.
Eh bien, merci beaucoup, Tiffany, pour cet agenda culturel. On se retrouve dans 2 semaines, hein. C'est bien lundi désormais. Hein. Voilà, t'as bien noté ?
Oui, c'est noté.
C'est bon, donc ce sera... Et j'ai vu, hein, c'est bien vendredi 12 avril. Je sais plus ce que t'as dit tout à l'heure dans ta...
Oui, ah, j'avais un 12 pour la date, c'est pour ça.
C'est le 12, donc c'est vendredi 12, okay. Ce que t'as évoqué. Bref, notre sujet de ce soir, Oriane, les infos pratiques et utiles concernant les chiens guides aveugles. On te demandait tout à l'heure avec Suzanne, si on veut être famille d'accueil par exemple, hein, c'est un petit peu le cœur, c'est comme ça qu'on peut s'impliquer, ou même si on veut devenir bénévole, comment ça marche, où est-ce qu'on se renseigne?
Alors, on se renseigne sur notre site internet, chienguidewest.org. Et vous pouvez aussi nous appeler, vous trouverez le numéro sur le site internet. Pour être famille d'accueil, il faut habiter à moins d'une heure de Angers, Nantes ou Lorient. Il faut aimer les animaux, être motivé et puis avoir une voiture et un petit peu de temps dans son travail, dans sa vie de tous les jours. Voilà.
Voilà, et le site internet donc chien-guide-aveugle-de-l'ouest.com.
Chien-guide-ouest.org.
.org, voilà, c'est celui-là. Julien, non, toujours pas convaincu?
Ah si, bah j'ai toujours été convaincu.
Ah bon, bah il est convaincu, ça y est.
Parfait.
Impeccable. T'es avec nous demain, après-demain?
Après-demain, mais jeudi, les folies.
Jeudi, pour les folies. Bon, voilà. Bah, jeudi, Julien, merci beaucoup, Oriane, d'être passé ce soir dans Topette. On se tient informé concernant les actualités. Merci, Suzanne. On te retrouve dans Gélaref jeudi à 13h. À l'animation, peut-être, non?
Non, pas cette fois, non.
Pas cette fois-là. Tiffany, nous, on se revoit dans 2 semaines. Sinon, les auditeurs auditrices, c'est demain, 18h10. Mathéo, tiens, prends un micro et le traditionnel Topette. À demain.
Topette.
Ciao. Il est 19h sur